Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, where the blue or gray be her skies, where the loud be her cheers, or where the soft be her tears, more and more, do I
C'est parti. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce 20e épisode de Popol. Et pour ce 20e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Nutarelli. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Mais très bien, et toi?
Ça va, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, Mathilde, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai 23 ans. Je suis en Master 2 d'économie à la Sorbonne. Et j'ai été aux jeunes générations et maintenant je suis à Résilience Commune, qui est un collectif d'organisation de jeunesse.
Super, merci beaucoup d'être là avec nous. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Claire Monod. Bonjour Claire.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Très bien,
avec
merci.
Plaisir, merci d'être
moi,
là.
Je vais bien. J'espère que tout le monde va bien aussi parce que je crois qu'on est tous un peu affectés par la situation. Santé physique, santé morale, tout ça c'est difficile.
Ouais, c'est difficile, mais c'est pour ça qu'il est important qu'on continue ces moments de convivialité et d'échange pour ne pas sombrer dans le désespoir absolu. Est-ce que tu nous parlerais un peu de toi, s'il te plaît, Claire?
Mais avec plaisir. Moi, je suis élue régionale pour une alternative écologique et sociale en Île-de-France, et donc dans l'opposition. Et je suis parisienne. Moi, je me suis lancée tard en politique. Hein. J'ai commencé après ma carrière d'architecte et d'urbaniste. Et j'ai 3 enfants, voilà, dont un petit dernier.
Cool, et, super.
Voilà.
Merci beaucoup. Et nous avons enfin le plaisir de recevoir Ariane Amadi. Bonjour Ariane.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ça va bien, merci. Je précise qu'Ariane a un très très beau rouge à lèvres. Alors, on ne le voit pas sur le podcast, c'est dommage. C'est marrant parce que hier, j'ai un pote qui me disait « Mais tiens, tu devrais peut-être aller chercher des sponsors et tout. » Je dis « Ouais, tiens, les marques de maquillage. » J'étais là « Ah ouais, grave, j'imagine trop le truc. » Genre « Coucou les filles, aujourd'hui j'ai un super rouge à lèvres. » Bon, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est assez drôle. Mais enfin, on précise qu'on se voit quand même. Entre voilà. Nous, on se voit. Et Ariane a un très beau rouge à lèvres que j'aime
merci,
beaucoup.
Merci, si tu veux, c'est Monoprix. Hein. Donc, c'est une marque très, très, vraiment très quali. Je ne sais pas si tu pourras le retrouver parce qu'il est vraiment très, très rare. Mais voilà.
Donc, en tout cas, il est très joli.
Voilà, voilà.
Tu nous parlerais un peu de toi, s'il te plaît?
Ça marche. Donc moi, je m'appelle Ariane Amadi. J'ai 30 ans. Je suis actuellement conseillère en communication et en stratégie politique et corporate depuis 3 ans maintenant. Au sein d'une boîte qui s'appelle Only Conseil, et je m'occupe en gros d'élus au niveau national, local, international et de dirigeants du privé. Voilà.
Super, merci beaucoup, beaucoup. C'est super de vous recevoir toutes les trois. On va parler aujourd'hui des élections. Des élections régionales et départementales qui vont bientôt se tenir. Et nous allons aussi parler de la polémique autour de l'UNEF. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec les élections régionales et départementales. Initialement prévues en mars, les élections régionales et départementales devraient se tenir les 13 et 20 juin prochains. Mais ces élections sont suspendues à l'avis du Conseil scientifique qui devrait être rendu le 1er avril. De nombreuses personnalités politiques s'opposent à ce report en invoquant l'importance de maintenir un minimum d'exercice démocratique en cette période de crise. Mais si ces élections semblent susciter peu d'intérêt auprès du grand public, force est de constater que certains y voient une sorte de laboratoire pour l'élection présidentielle de 2022. En effet, certaines alliances, telles que l'Union de la gauche dans les Hauts-de-France, représentée par Karim Adeli, laissent imaginer que les partis politiques de gauche pourraient éventuellement s'entendre pour faire front commun en 2022. D'autres, à l'instar de Xavier Bertrand, y voient un véritable tremplin pour l'Élysée. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ces élections méritent un regard particulièrement attentif? Et est-ce qu'un report serait, d'après vous, souhaitable? Et je vais d'abord donner la parole à Claire. Claire, qui est elle-même au cœur du sujet quand même en tant qu'élue régionale, qu'est-ce que tu penses déjà d'un potentiel report? Est-ce que tu penses que c'est souhaitable? Est-ce que c'est raisonnable et envisageable?
Oui, merci Léa. Effectivement, on est quand même dans un contexte très, très particulier parce que déjà là, en fait, aujourd'hui, la vraie date des élections régionales est déjà passée, donc elles ont déjà été reportées une fois, d'accord? Donc elles sont reportées maintenant potentiellement en juin et donc on est en train de parler d'un report inédit, en fait, parce qu'on ne sait pas trop quand. Il y en a qui évoquent l'automne, si c'était possible, mais ça semble compliqué au regard du calendrier électoral de la présidentielle et des législatives. Et donc, une hypothèse selon laquelle elle serait reportée finalement après l'élection, la séquence nationale. Alors, dans les débats aujourd'hui qui ont lieu, donc qui ont cours, tu en as cité une partie en référence à « on ne joue pas avec la démocratie, il faut absolument maintenir ces élections, etc. » Et puis les autres disant « bah écoutez, oui, mais enfin bon, il y a peut-être un petit problème sanitaire quand même ». Ça donne, comment dire, ça alimente, ou plutôt ça s'alimente, enfin, c'est, il y a un aller-retour très complexe sur la situation dans laquelle on est. Moi, je veux juste revenir là-dessus, quoi. On est dans une situation inédite, historique et singulière d'une violence inouïe, en fait, sur nos vies, sur notre façon de nous projeter dans la société, sur la façon de réfléchir. Et pour celles et ceux qui ont eu le Covid, par exemple, et qui sentent parfois dans le brouillard, cérébrale, j'ai entendu que c'était une des séquelles qu'on pouvait garder. Je vous assure que même quand on n'a pas été touché par le Covid, parfois le brouillard, il est quand même assez épais. Honnêtement, si ça doit se dérouler comme les municipales, dans un contexte d'une abstention colossale, parce que soit les gens ont peur d'être contaminés, soit du coup la campagne a été totalement naze, ils ne sont pas du tout motivés. Moi, je pense que de ce point de vue-là, les reporter, c'est mieux. Après, il y a des stratégies politiques et chacune des formations politiques, à droite ou à gauche, ont construit par rapport à cette dernière étape avant la présidentielle une stratégie politique. Donc, nous, clairement, les écologistes et la gauche écologique, on est vraiment dans l'idée de se dire que ça doit être un tremplin, tu en as parlé tout à l'heure. Mais il ne vous a pas échappé que les partis à vocation nationale, j'entends ça dans le sens où des partis qui ont un ou une représentante, évidemment Marine Le Pen en tête, Macron, Mélenchon, eux, finalement, les régionales, ça ne leur parle pas beaucoup parce que leur vrai sujet, c'est la présidentielle. Et donc, en fait, eux, et Macron le premier, a tout intérêt à reporter le scrutin. Donc, les enjeux politiciens, les enjeux sanitaires et trouver le juste milieu dans tout ça, à un moment, il va falloir effectivement écouter le conseil scientifique et tenir compte de l'aggravation quand même de la situation par rapport à l'épidémie.
Ouais, c'est clair, ça c'est très important. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'En Marche n'a absolument pas envie que ces élections se tiennent parce qu'ils vont juste se prendre une maxi raclée, comme ça a déjà été le cas au municipal, parce que de toute façon, ils n'ont pas d'ancrage territorial. Et franchement, je veux dire, les personnalités en plus qu'ils ont envoyées au front, on sent qu'elles ne sont pas là pour se battre, hein, évidemment. Les sondages, d'abord, sont très défavorables aussi. En revanche, pour le Rassemblement national, je suis un peu moins d'accord parce que finalement c'est peut-être là où le RN peut se positionner en parti de gouvernement parce qu'il y a quand même des candidats aux élections régionales qui sont classés favoris en PACA et en Occitanie le candidat est placé juste derrière Carole Delga dans les sondages, donc il y a quand même un enjeu je pense stratégique pour le RN qui n'est pas le même que celui de La République En Marche, à mon sens. Ariane, tu en penses quoi ? Pardon, Claire.
Non, c'était juste pour te répondre, je suis d'accord. J'ajouterais simplement que tu as parfaitement raison sur cette situation, mais ça crée une grosse, grosse prime aux sortants, cette ambiance.
Oui, tout à fait.
Et de ce point de vue-là, le RN n'est pas dans les sortants.
C'est vrai. Ariane, tu vois les choses comment, toi ?
Alors, déjà, juste alors, je prends un peu ma casquette de communicante, du coup, mais juste d'un point de vue général, il est vrai que les élections régionales, de toutes les élections locales, sont les élections où les enjeux sont le plus nationalisés. Donc, ça, c'est un fait. La communication n'est jamais objective, on va dire, mais c'est quand même une science assez… Donc, ça, déjà, c'est le point de départ. C'est-à-dire que les municipales, on vote pour monsieur ou madame la maire parce qu'on l'aime bien, et c'est pour ça que d'ailleurs les étiquettes politiques ont pu être moins importantes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des rassemblements qu'on ne verrait pas forcément au régional. Donc ça, c'est la première chose, c'est que l'élection régionale est l'élection locale la plus nationale. Donc, sur la question du tremplin que tu évoquais par rapport à la présidentielle, c'est pour ça que dans certaines régions, les têtes de liste, on va les placer avec le plus de notoriété possible et de popularité dans l'idéal, parce qu'on veut créer effectivement au moins cette espèce d'engouement autour de la personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur les rapports de force existants, là où je suis alors, un petit en accord et un petit peu, j'ajouterais une petite nuance, c'est que je ne pense pas, moi, que Macron va décaler les élections. Je ne pense pas qu'il va les décaler. En revanche, ce qui est réel, donc là, je prends juste pour que tout le monde, enfin, ceux qui nous écoutent, soient au courant, il y a trois sondages qui sont les RégioTrack qui ont été faits depuis janvier, qui sont, voilà, c'est évidemment, voilà, avec toute la prudence qu'on peut prendre autour des sondages, mais qui sont assez bien faits et qui montrent en réalité que la Macronie n'a aucun intérêt à nationaliser l'élection, c'est-à-dire à faire campagne dès maintenant en envoyant des têtes d'affiche soutenir les candidats. Pourquoi ? Parce que au dernier, donc qui date d'il y a 2-3 jours, hein, qui est publié dans les Échos, le vote sanction est trois fois supérieur, donc 33% vis-à-vis de Macron, que le vote récompense, 12%. Donc quand on dit c'est quoi un vote sanction, c'est dire je vote pour faire barrage ou contre la politique du gouvernement, et ceux qui votent pour soutenir la politique du gouvernement, c'est 12%. Donc, il va pas, moi, à mon avis, il ne va pas forcément décaler les élections, mais ils vont faire une campagne qu'on appelle une campagne un peu blitz, c'est-à-dire de venir soutenir les trois dernières semaines pour aussi, parce qu'il y a quand même un enjeu de crédibilité, si vous voulez. On ne peut pas dire on est en pleine pandémie et aller serrer des pinces toute la journée, faire des espèces de meetings. Enfin, il y a un moment où vous ne pouvez pas être… voilà. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Enfin, au niveau de la gauche, je suis totalement d'accord avec la primo sortante. C'est encore une fois ce qui est montré dans ces trois sondages. Hein. On est sur, il y a, il me semble, de mémoire, un basculement possible en Pays de la Loire et peut-être en Bretagne. Mais après, grosso merdo, on est sur une élection, réélection des sortants. Donc ensuite, sur la gauche, je parle plutôt…
Sauf pour PACA. Sauf pour PACA,
PACA effectivement. Mmh. Et tu as raison de le rappeler. On est donc l'intérêt des Français quand on leur demande « Êtes-vous intéressé par les élections régionales ?» 60%. En réalité, c'est beaucoup moins parce que quand on vous dit « Est-ce que vous êtes intéressé par quelque chose ?» rien que le fait de se rappeler que ça existe, ça biaise déjà la chose. À mon avis, on est plutôt autour de 40. Dans ce sondage aussi, il montre que la structuration du vote est exactement la même que dans des élections locales, nationales de base. C'est les 65 ans et plus qui vont voter à plus de 74% de façon certaine. Donc pour la gauche, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un enjeu considérable sur la jeune génération qui, j'ai plus le chiffre en tête, va pas se déplacer et pas hyper mobilisée par les régionales. Et je rappelle juste, et après je m'arrête, que les 35-49 ans votent principalement, dans la plupart des élections, mais en tout cas au niveau national, Le Pen. Donc ça donne pour la gauche une idée de la stratégie à mettre en place, tant pour l'élection régionale, mais que pour l'élection nationale, notamment sur la mobilisation de la jeunesse. Et donc voilà, voilà ce que j'avais à dire. Donc, est-ce que c'est pertinent ? Moi, donc, comme je vous le dis, je ne pense pas qu'il va la décaler. Je pense qu'au fond, qu'il la décale ou qu'il ne la décale pas, ce n'est pas son élection. Et enfin, je veux dire, c'est plutôt une élection, à mon avis, de stabilisation des acquis pour la gauche, on va dire socialiste, et éventuellement pour la gauche écolo, sur peut-être avec Mathieu Orphelin, une percée. Mais je ne pense pas que ça va faire un bouleversement majeur des équilibres. Et d'ailleurs, je finirai par ça pour ma démonstration. Donc, depuis janvier, c'est stable. Premier au niveau des tendances nationales, LR 23%, RN 20-21, LREM 16-17, Europe Écologie Les Verts 13, PS 12, LFI 7. Voilà.
C'est très intéressant, ouais, d'avoir convoqué la notion du vote sanction. C'est quelque chose que j'avais pas du tout à l'esprit. Et c'est vrai que ça pourrait être très préjudiciable à La République En Marche en ces temps. Mais de toute façon, comme ils sont cuits dans les sondages, autant y aller, ouais, effectivement. Belle analyse, j'aime beaucoup. Mathilde, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et j'aimerais bien qu'on revienne sur l'aspect front commun de la gauche et cette réussite. C'est quand même assez remarquable. Moi, je trouve qu'ils se mettent d'accord dans les Hauts-de-France pousser Karima Deli, qui est par ailleurs une personnalité que j'apprécie beaucoup et qui me semble très intéressante, et qui est une femme politique très investie, même si on la connaît très peu du grand public, mais quand même, enfin moi je la suis depuis un paquet de temps, notamment au niveau européen. Elle est quand même à un parcours très très intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Moi, je suis ravie que ce front se soit constitué dans les Hauts-de-France, d'autant plus que, comme toi, j'aime beaucoup Karima Deli. Elle était venue parler avec nous à Résilience Commune, et c'est vraiment une personnalité que je trouve très intéressante. Elle a un caractère de folie. Et donc, ouais, c'est un grand espoir de montrer que c'est capable, enfin, que la gauche est capable de le faire. On l'avait un peu fait aussi pendant les municipales, mais... Bon, à chaque fois, c'est les enjeux locaux qui le permettaient. Et donc là, de réussir à le faire de manière un peu plus large, c'est assez intéressant. Après, on voit quand même que sur le reste du territoire, c'est compliqué. D'autant plus en ce moment, il y a tous ces débats, mais on en reparlera après, je pense, entre la France Insoumise et le PS, pour caricaturer, hein, mais suite à la polémique sur l'UNEF. Donc on voit quand même qu'on a des espoirs comme ça qui arrivent, mais c'est quand même... Il y a du boulot, quoi. Et du coup, en ça, je rejoindrai un peu Ariane sur le côté, la répétition générale un peu des présidentielles. On voit que la gauche essaye, ça ne marche pas forcément, mais il y a une urgence, quoi. Enfin, je vois pas comment on peut s'en sortir autrement que comme ça. Et pour revenir aussi sur ce que tu disais, Ariane, tout à l'heure, sur les jeunes générations, je pense que t'as raison, c'est un enjeu central, parce que elles sont super démobilisées sur le plan politique. Elles croient très peu, en fait, maintenant à l'action politique, mais elles croient beaucoup à l'action plutôt associative, et quand on voit dans les mobilisations pour les marches climat, pour les marches Black Lives Matter et tout ça. Et d'ailleurs, je pense que le gouvernement s'en est rendu compte avec ces petites interventions sur les réseaux, sur Twitch, en faisant venir des influenceurs. Et donc, je pense qu'en fait, cet enjeu-là, il va être pris sur cet angle-là, sur les présences de plus en plus importantes sur les réseaux sociaux. Et donc, il va être important de trouver une manière plus démocratique d'utiliser ça, pour pas que ce soit, comme on a vu avec Gabriel Attal et Enjoy Phoenix, par exemple, où ils utilisent des influenceurs pour faire leur com, typiquement. Voilà. Bon, je me suis un peu éloignée du sujet de départ, mais...
Non, mais c'est important, cet angle-là est effectivement fondamental, tu fais bien d'y revenir. Claire, tu voulais réagir ?
C'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait Mathilde, dans cette ambiance que je qualifie moi totalement inédite, demain, il y a une énorme marche climat qui est prévue, qui est programmée, où se conjugue l'envie de sortir, d'aller voir des potes, d'aller discuter, d'aller toucher les gens, alors en gardant les gestes barrières, etc. Mais quand même, il y a cette énergie qui pousse. Alors oui, les jeunes, ok, mais pas que. Les écologistes et tout ce qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion est gagnée par cette cause-là. Donc demain, c'est énorme, cette mobilisation. Vraiment, c'est un moment très important. Alors, c'est pourquoi c'est important, parce que sinon, on a l'impression, dans cette campagne totalement atone, étouffée, anesthésiée pratiquement, si tu veux, qu'en fait, il n'y a que les outrances qui passent le mur du son. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu un outil politique, et on en parlera dans la deuxième partie, j'imagine. Mais aujourd'hui, finalement, le discours politique, ce ne sont plus que des anathèmes, parce que le reste est... Alors, ce principe de communication politique par l'outrance, ça existe depuis longtemps. Mais en ce moment, dans ce contexte, ça prend une dimension très particulière. Et donc, ces surenchères-là et l'usage politique qu'essaye d'en faire Macron, notamment en lâchant Schiappa et Darmanin comme ces chiens aux avant-gardes, là, tenir des propos hystériques pour hystériser les foules, ce contexte-là est vraiment pas propice à la réflexion et à la préparation d'une élection régionale sereine, normale. Voilà. Donc moi, par rapport à ce que disait Ariane, je pense que les élections vont être reportées, et je pense que ce serait une saine décision qui, par ailleurs, permettront l'engagement, ça va partir au quart de tour, et Xavier Bertrand l'a bien compris, immédiat de l'élection présidentielle. Et donc, on pourrait changer comme ça du jour au lendemain, finalement, de cadre. Et pourquoi Xavier Bertrand, par rapport à ce que disait Mathilde, et la super Karima Deli, que j'adore aussi, il a bien compris qu'il fallait qu'il déclare sa candidature au présidentiel avant que potentiellement les élections soient reportées, parce que sinon il lui serait reproché de, ah bah vous avez pas ça, donc vous faites ça, etc. Et donc il a voulu, c'est pour ça qu'il a précipité sa candidature. Par ailleurs, il y a beaucoup d'indicateurs qui disent quand même que c'est chaud, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est bien résumé, c'est chaud, c'est le bon terme. Ariane, tu voulais réagir aussi ?
Oui, je voulais réagir juste à ce que disait sur deux choses. La première chose, c'est ce que disait Mathilde sur la nature du vote jeune aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ce qu'on observe, c'est que c'est un vote structuré autour de grandes causes. On n'est plus sur un vote partisan organisé autour d'un système de valeurs avant, on va dire, pré-chute du mur, avec aussi des références socio-historiques, Trotsky pour certains, du GUD pour d'autres, enfin peu importe, on est sur l'engagement pour des causes. Le climat en est une, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce que tu disais sur la question du mode associatif, c'est que les politiques, et notamment, moi je trouve, que la gauche est en retard. Je parle de la gauche au sens large, social, écologique, je trouve qu'on est en retard. Parce qu'au fond, et ça c'est moi de mon point de vue communicante, pour travailler avec des gens de bords différents, je constate qu'il y a un rapport complexé de la gauche à la communication politique. Et donc, du coup, ça donne réellement, et je le comprends, hein, parce qu'il y a une forme de marketing, enfin de quelque chose qui forcément peut un peu dénaturer le propos. Et je pense que du coup, on ne se saisit pas parfois de certains outils à la hauteur de ce que peut faire Macron ou même d'une certaine façon le Rassemblement national pour aller toucher les jeunes mais aussi d'autres catégories de population. Voilà.
Le meilleur exemple, c'est la France insoumise. Hein.
Voilà, la France
insoumise. Excellent là-dessus.
C'est très très bien ça. Elle a créé un populisme de gauche qui est avec honnêtement un outillage communicationnel. Enfin, la campagne de Mélenchon de 2017, d'un point de vue d'expertise de communication. C'était assez incroyable. Enfin,
Même la façon dont il occupe depuis 4 ans l'espace médiatique et plus particulièrement les nouveaux médias. Enfin, il y a quand même plein de candidats. Bon, il a fait un score assez remarquable quand même, ça faut quand même le dire. Mais il y a plein de candidats qui finalement sont un peu absents du paysage médiatique. Je pense à Benoît Hamon, je pense à quand même pas mal de candidats. Non, mais c'est vrai, j'adore Benoît Hamon, hein, j'ai fait campagne pour lui, c'est pas le problème, mais je trouve qu'il est quand même totalement absent de la scène médiatique quand tu le compares à un Jean-Luc Mélenchon, typiquement. Mathilde, je te laisse peut-être conclure sur ce thème, s'il te plaît.
Oui, bien sûr. Du coup, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ariane. En fait, je pense que du point de vue de la jeunesse, pour ce que j'ai pu en voir depuis mon jeune âge, je pense que à gauche, on n'a pas, ouais, peut-être pas osé se moderniser, entre guillemets. Et donc, la gauche, elle passe un peu pour un ensemble de gens un peu, qui sont restés un peu en arrière, qui ont peur d'aller sur les réseaux, d'aller parler aux jeunes, comme peuvent le faire Macron quand il a utilisé Snapchat pour sa campagne présidentielle, ou Mélenchon, par exemple. C'est un peu l'exception sur le sujet. Mais bon, après, c'est pas irréversible. Je pense que voilà, il faut aussi qu'on sorte l'artillerie lourde et il faut qu'on y aille, quoi. Il y a plein de jeunes qui sont sur les sujets que défend la gauche. Et il faut maintenant qu'on aille leur dire que la politique, c'est pas un gros mot, que c'est pas des méchants qui sont là pour s'en mettre plein les poches et qu'au contraire, les élans des jeunes sont là pour porter aussi les valeurs auxquelles ils croient.
Ouais, carrément, c'est très juste quand vous parliez tout à l'heure, toutes les deux, de l'engagement politique qui ne se fait plus d'une manière partisane, mais vraiment autour de thématiques et de militantisme, en quelque sorte. Et c'est très certainement là où la gauche pourrait effectivement, plus traditionnelle, pourrait effectivement essayer de surfer pour séduire un électorat plus jeune, ça c'est clair. Claire, tu voulais juste dire un petit dernier mot là-dessus et après on passe au prochain thème si ça ne vous dérange pas.
Oui, bien sûr. Non, c'est par rapport à cette capacité médiatique des uns et des autres. C'est là aussi où on voit le fonctionnement des institutions de la France, si tu veux. Parce que la différence, c'est quoi ? Tu parlais de Mélenchon et de Hamon. Ils ont un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ils ont une représentation à l'Assemblée. Je sais que tu connais bien ces questions-là. Ce qui n'est pas le cas ni des écologistes, ni de Génération. Et donc, tu vois bien la différence dans l'espace médiatique de l'impact et des moyens, évidemment, qui vont avec. Hein. Je ne te cache pas que, quand même, avoir un tout petit parti, ce n'est pas la même chose en termes de capacité. Et voilà. Et enfin, ce que je voulais juste rajouter par rapport à ce que disait Mathilde, qui est sur à propos de résilience, il y a aussi aujourd'hui une énorme dynamique citoyenne qu'on appelle comme ça le pôle citoyen, qui sont des rassemblements d'initiatives citoyennes pour un ou une candidate unique en 2022. Et parallèlement à l'organisation des partis politiques, chacune et un peu chacun dans son sillon, évidemment, de sa formation, se constitue donc à côté un ensemble qui pourrait avoir un poids dans l'organisation in fine de la candidature en 2022. Et je pense que c'est extrêmement intéressant à suivre, on en est évidemment, et on le suit, parce que c'est ce que nous appelions à Génération le lobby citoyen. Donc voir dans quelle mesure aujourd'hui des réseaux de citoyens plus ou moins organisés, mais qui commencent à s'organiser quand même, peuvent peser sur l'organisation des formations politiques. Et je pense qu'il a un enjeu aussi historique pour savoir si ça marche ou pas du tout. Et je préférerais que ça marche.
Ouais. Quand je parlais de l'espace médiatique, je pensais surtout aux nouveaux médias, effectivement, mais tu as tout à fait raison. À partir du moment où il y a un groupe parlementaire qui est constitué, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de pouvoir être mis en avant dans les médias traditionnels. En revanche, et ça, on peut quand même aussi peut-être faire la critique à Benoît Hamon, mais peut-être qu'il n'en a pas envie, en fait. Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux et beaucoup plus présent sur YouTube, par exemple, où il fait une intervention toutes les semaines. Ces nouveaux outils numériques où je pense les partis, les autres partis de gauche ne sont pas vraiment arrivés à saisir, en fait.
D'un mot, il y a évidemment les sujets de représentation au niveau de l'Assemblée, mais cette même représentation est liée aux scores électoraux. Donc avant ça, c'est quand même une question beaucoup plus profonde pour moi, qui est, à mon avis, hein, encore une fois, sur l'expertise que j'ai acquise ces trois dernières années, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de pensée complexe et parler vrai, et de comment réconcilier la gauche avec ça. Parce qu'on a un train de retard, et je travaille en particulier sur cet enjeu-là, car il me semble qu'il ne s'agit pas juste d'être sur les réseaux sociaux, c'est la question dans de nouveaux codes médiatiques qu'on peut critiquer et qu'on peut déplorer, comment on peut s'insérer pour maintenir notre identité dedans. Et ça, c'est le travail d'un communicant, mais c'est aussi le travail intellectuel des politiques de gauche. C'est un peu des deux, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire.
Ouais. Merci beaucoup pour ces éléments sur ce thème quand même assez passionnant. Donc on va voir, hein, on le saura bientôt, est-ce que ces élections seront reportées ou non. Affaire à suivre. Je vous propose de passer au second thème dont on voulait parler aujourd'hui, de la polémique autour de l'UNEF. Ces derniers jours a éclaté une polémique qui vise l'un des principaux syndicats étudiants en France, l'UNEF. Début mars, à Grenoble, la section locale de l'UNEF a relayé un poste où l'on voyait des collages accusant des professeurs d'islamophobie. Quelques jours plus tard, lors d'un entretien un peu musclé avec Sonia Mabrouk, la présidente du syndicat Mélanie Luce a admis que se tenaient au sein de l'UNEF des réunions non mixtes ouvertes aux personnes victimes de discrimination. Certaines personnalités politiques ont saisi l'occasion pour accuser le syndicat de pratiques racistes. Notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est même allé à dire que ce type de réunion pouvait mener vers des choses qui ressemblent au fascisme. Certains responsables politiques ont appelé à la dissolution du syndicat, à l'instar d'Éric Ciotti, quand d'autres ont pris sa défense, notamment dans une tribune qui a été publiée dans Le Monde cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ces réunions vous surprennent, vous choquent ? Et est-ce que le syndicat devrait, d'après vous, être dissous ? Mathilde, je te donne la parole en première sur ce thème.
Merci pour cette super présentation. J'ai plein de choses à dire, donc j'essaie d'être rapide. Moi, je déplore vraiment enfin, en fait, je trouve qu'en ce moment, on est dans une espèce d'ambiance délétère. C'est vraiment terrible. On a eu l'islamo-gauchisme, et là, on nous balance ensuite la non-mixité. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un débat nuancé, calme, sur des sujets qui... on ne peut pas rejeter tout en bloc ou tout accepter en bloc. Je pense qu'il y a des choses qui existent, il faut en parler. Mais on ne peut pas en parler en étant soit trop pour, soit trop contre. Enfin, le dogmatisme, sur ça, ça ne marche pas. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième, ensuite, c'est... je trouve que bon, les appels à la dissolution, honnêtement, c'est vieux, quoi. Enfin, on peut pas, dès qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, vouloir le dissoudre, surtout venant de la part de personnes qui un peu raille à ce qu'ils appellent la cancel culture. Je trouve ça assez fort de café, mais encore une fois, il faut être dans la nuance et dans le dialogue plutôt qu'être dans l'effacement. Et surtout quand on a Mélanie Luce qui se prend une campagne de harcèlement insupportable. Bon, voilà. Mais ceci étant dit, sur la question de la non-mixité, moi, je suis partagée. Je pense pas que les réunions non mixtes elles aient leur place au sein d'un syndicat par exemple ou même d'un parti politique, parce que pour moi c'est des lieux qui sont là pour l'action collective, et donc le fait de mettre en place ces réunions qui par essence ne vont pas permettre à tout le monde d'y assister, ça va entraver donc cette action collective et cette prise de décision collective. Ceci étant dit, je pense que ça peut être bénéfique pour les personnes qui sont victimes de discrimination, que ce soit du sexisme, des discriminations raciales, etc. Ça peut bien sûr être très justifié dans le cadre d'associations ou de groupes de parole, parce qu'en effet, ça permet de faire émerger les paroles, discuter des expériences et de voir comment sortir des traumas. Donc voilà, je pense que c'est très important de laisser de l'espace à de la discussion calme et pas à ces invectives permanentes qui divisent la gauche, alors qu'on a un boulevard face à l'extrême droite qui se permet d'attaquer des conseils régionaux. Et voilà, on devrait s'unir autour de ça plutôt que de se déchirer sur la non-mixité.
Mais d'ailleurs, c'est marrant, tu dis ça, mais Carole Delga a tweeté un truc hier qui était un peu, qui moi m'a un peu choquée, le fait que l'UNEF avait effectivement des dérives racistes, ou je ne sais plus, enfin je ne me souviens plus exactement, mais il faut qu'on le retrouve, et je vais le retrouver, je te laisse la parole Claire sur ce sujet, mais j'ai été très choquée de cette réaction, et pendant que tu parles Claire, je vais aller diguer pour choper le tweet de Delga.
Oui, pour poursuivre ce que disait Mathilde, en fait, je pense que le sujet, ce n'est pas l'UNEF, en fait. Parce que moi, les réunions non mixtes, je ne veux pas dire les filles, là, mais on fait quoi, là ? Là, tout de suite, là ? Ton podcast, Léa, c'est quoi, en fait ?
Non, mais moi, je suis tout à fait favorable à la non-mixité. Mais d'ailleurs, si vous voulez mon opinion, bien sûr.
C'est pas du tout une... C'est juste, en fait, que la question, en ce moment, ce n'est pas la question de la non-mixité, de l'UNEF ou que sais-je. Encore une fois, c'est ce moment d'hystérisation générale, généralisée, et de manipulation du débat public pour choper n'importe quel prétexte pour aller taper qui sur l'islamophobie, qui sur bref, je pense que la démonstration elle est facile à faire. Là on est toutes les quatre par exemple, et c'est même le point de départ de la construction de ton podcast, mais la semaine dernière je crois, ou il y a 10 jours, Valérie Pécresse tenait une réunion de 600 élus femmes.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Et elle en était super fière. Et bon, moi, je ne partage pas grand-chose avec Valérie Pécresse sur le fond. Mais bon, je me dis, voilà, une démarche féministe, bienvenue, très bien. Et donc, on voit bien que le problème, c'est pas ça. Le problème, en fait, c'est la question de la couleur, c'est la question du racisé, en fait. C'est le fait que cette réunion, soi-disant, elle était racisée. En fait, c'est ça le sujet, c'est ça l'obsession du moment, et c'est ça la façon de faire monter l'agressivité et l'hystérie de l'opinion publique. Pourquoi faire ? Parce que, encore une fois, les macronistes sont persuadés que leur meilleur atout au deuxième tour, c'est Le Pen, et Le Pen est persuadé que son meilleur atout au deuxième tour, s'ils y sont bien sûr, hein, c'est Macron, et donc ils passent leur temps à se renvoyer la balle l'un à l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de prendre comme sujet l'islamophobie ambiante, le racisme et tous les étrangers et tout le vocable d'extrême droite aujourd'hui pour essayer de encore une fois pour hystériser le débat parce que ils ont un dessein tous les deux qui est qu'ils sont persuadés et l'un et l'autre qu'ils peuvent gagner la présidentielle à condition que ce soit l'autre qui soit en face, et donc ils font tout pour que ça advienne. Et on peut lire tout ce qui se passe en ce moment, qu'on parle de Trappes, qu'on parle de Strasbourg, qu'on parle de l'UNEF, tous les sujets, tous, ça revient au même. Et évidemment, ce n'est pas du tout une façon possible, comme disait Mathilde, de construire quoi que ce soit. Et la gauche, là-dedans, elle subit, hein, ça c'est clair. Hein, parce que pour avoir une voix posée, pour avoir des propos... c'est difficile.
Ouais, c'est clair. J'ai retrouvé du coup le tweet de Carole Delga en t'écoutant pendant que tu intervenais. Il faut cesser de monter les gens les uns contre les autres au risque de générer une société d'ennemis. Très bien. Racisme, antisémitisme et discrimination ne reculeront qu'en rassemblant les Français sur les droits et les valeurs de la République. L'UNEF gagnerait à suivre ce chemin. Alors toute la première partie du tweet allait bien et puis d'un seul coup, bon, l'UNEF a pris un petit coup de la part de Carole Delga. Très bien. Ariane, tu t'as perçu comment cette polémique autour de l'UNEF ?
Pour répondre à la question d'abord et après développer, moi je suis contre la dissolution de l'UNEF. En revanche, je suis plutôt contre les réunions non mixtes. Alors je suis un peu sur l'avis de Mathilde, c'est-à-dire qu'en fait, moi je pense que l'erreur de l'UNEF là-dedans, c'est l'interdiction. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de lobbies, par exemple dans le milieu du travail, de groupes pour favoriser, aider les femmes à la prise de parole en public, etc., qui se font plutôt entre femmes. Ça existe déjà, en fait. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction pour quelqu'un de l'extérieur à venir. Et je pense que l'erreur qu'ils ont faite, c'est celle-là, en fait. C'est pas tant... C'est parce qu'à un moment, à partir du moment où on interdit... C'est-à-dire, dans en tout cas l'opinion publique, et c'est pour ça que ça radicalise le propos, ça dit que en fait, c'est un débat où il y a une partie du contradictoire qui ne peut pas venir. Et qu'en plus, si vous voulez, aujourd'hui, la gauche, vu la structuration de l'opinion publique qui est de droite, hein, je vous prends les priorités des Français, la sécurité, c'est le premier, c'est ça quand même la tendance. Je ne dis pas qu'il faut leur donner ça. Qu'il faut répondre à ça. Mais je dis que les sujets sur lesquels les Français cherchent du positionnement, c'est la sécurité, c'est l'emploi, la protection dans une période de crise. Donc, si vous voulez déjà être de gauche, vous êtes déjà un peu gauchiste, quoi, quand même, plus que dans d'autres périodes, en tout cas. Donc, moi, je pense au contraire qu'il faut être très clair et pas du tout... en tout cas, ma clarté à moi, parce que c'est celle-là, c'est de dire non à la dissolution. Je trouve que c'est une bêtise d'avoir fait l'interdiction, d'interdire à d'autres gens. Et moi, mais ça c'est un avis très très personnel, je regrette que la gauche ait abandonné la lutte des classes au profit d'une réflexion identitaire, parce que je pense qu'on ne gagnera jamais face à la droite et à l'extrême droite. C'est du pain béni, on est mort si on va sur l'identité, on ne gagnera pas. Donc je pense, mais ça c'est mon avis, que pour être très concrète, il faut dire que on a trois fois plus de discrimination quand on est issu de l'immigration et pauvre que quand on est issu de l'immigration et riche, ce qui ne veut pas dire que quand on est issu de l'immigration et riche, il n'y a pas des formes de racisme ordinaire. Mais moi, je pense qu'il faut revenir à ça, parce que sinon, je pense que on perd la bataille. Voilà.
Merci Ariane. Mathilde, tu voulais réagir brièvement ?
Oui, très très vite. Je voulais juste dire que j'étais tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Ariane. Et je pense que c'est notamment cet abandon-là de la gauche qui fait qu'on en est là aujourd'hui et que le populisme et l'extrême droite ont récupéré les thèmes qu'on a abandonnés. Voilà, c'était tout.
Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup à toutes les trois. C'était intéressant d'avoir vos points de vue sur cette question aussi. On va passer à vos thèmes, si ça vous va, enfin vos actus, vos thèmes de la semaine. Et je vais d'abord donner la parole à Ariane. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Moi, j'avais envie de parler, c'est marrant, c'est assez raccord avec ce qu'on s'est dit. Je voulais parler sur la base d'un nouveau bouquin de Jean Birnbaum. Désolée, je dois écorcher son nom, mais bon, vous voyez, il est au monde. Bon, j'ai essayé de faire un peu genre allemand, je ne sais pas. Bref, qui s'appelle Le courage de la nuance et qui traite exactement de ce dont on a parlé et qui est pour moi un de mes thèmes de réflexion privilégiés, vous l'aurez compris. C'est l'idée qu'on a structuré aujourd'hui le débat médiatique et politique autour d'une éthique du combat, comme il dit, plutôt que du débat. Et d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde, et ça, c'est une tendance sociétale, je pense qu'il faut l'accepter, où la norme, c'est l'intensité et pas l'exception. Et donc, ça crée un environnement sociétal et social qui jouit de quoi ? De l'emballement, de l'agitation, de ce qu'on appelle, du coup, et là, je traduis en format médiatique, la culture du clash, les personnalités clivantes, les réseaux sociaux, la punchline. Et donc, à un moment, moi, pourquoi je dis ça ? Donc, c'est un constat, je me dis, comment la gauche s'insère dans ce contexte-là ? Ou bien on dit, c'est un truc un peu beauf, on ne fait que simplifier notre pensée, on ne va pas dans les plateaux, etc., parce qu'à chaque fois, ou bien on peut les former. Il y a les communicants servent à ça. Et donc, je veux dire, on fait quoi ? On fait des média training. Et à quoi ça sert un média training ? Très concrètement, ça sert à analyser la structure et le cadre d'une émission et à en déjouer les codes pour pouvoir passer plus facilement un message. C'est d'aider, en tout cas la gauche aussi là-dessus, parce que je pense qu'elle a trop peu recours à ça. Aussi, et je la comprends totalement, par culture plus intellectualisante, un rapport au savoir et à la nuance historique, je ne vais pas prendre tous les intellectuels des années 70, mais bon voilà, on n'est plus dans la figure de l'intellectuel engagé, ça ne veut pas dire que le politique de gauche engagé n'a plus voix au chapitre. C'est juste que les codes ont changé et que, comme tout code, il faut les apprendre, les travailler et y aller. Voilà, c'était mon point.
Et je crois qu'on a quelqu'un pour nous aider, c'est toi, Ariane. C'est ça. Je suis sûre que tu serais très bonne à ça. Merci. Claire, quel est le thème dont tu souhaitais nous parler, s'il te plaît ?
Bien, écoute, nous sommes aujourd'hui dans une phase d'élaboration où on essaye justement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, de contrecarrer cette impossibilité du débat et de construire un chemin à gauche écologique qui permette de rassembler. On a appelé ça, et on n'est pas les seuls, la République écologique. Et en fait, on s'inscrit dans les orientations que vient du dernier tome de Serge Audier, de la réflexion qu'il porte sur, alors très très historique et très construite, si vous connaissez, sur l'hypothèse de la, comment dire, de la capacité de la gauche socialiste globalement et de l'écologie de s'être retrouvée et ratée à de nombreuses occasions de l'histoire. Et on a envie de dire maintenant, contrairement à la petite musique parfois qui s'installe en disant que République et écologie, par exemple, ne seraient pas compatibles, on a vraiment envie, là maintenant, tout de suite, de montrer le contraire. Et donc, de se donner les moyens d'avancer sur ce sujet et de prendre le temps d'en débattre. Et donc, on a organisé déjà trois séminaires de très bon niveau pour prendre des exemples et non pas travailler sur la partie purement institutionnelle de la question. Ça, pour l'instant, on a le débat qui se joue autour de la demande de la Convention citoyenne pour le climat de modifier l'article 1 de la Constitution pour introduire la notion de préservation de l'environnement et du rôle de l'écologie. On s'inscrit, disons, dans la démarche de vers une sixième république globalement pour les institutions, mais on essaye de construire thème par thème des positions qui nourrissent cette réflexion. Parce que, étonnamment, en fait, le thème de la République, voilà, dans la bibliographie française, voilà, les thèmes liés à l'écologie et aux écologies aussi, mais ce thème-là, en fait, il n'a pas été tellement défriché. Et donc, on est là-dessus. De plusieurs, comment dire, de plusieurs origines, d'accord. Il y a eu un article publié dans la revue Germinal par Claire Lejeune sur la question il n'y a pas très longtemps, qui pose très bien les bases de la réflexion. Il y a eu aussi une tribune dans Le Point pour une République écologique portée plutôt par les jeunes, Le Vent se lève, et c'est, voilà. Et donc, nous, dans une approche qui est plus venant de l'écologie, on a envie de faire la démonstration qu'à travers, justement, le multiculturalisme, et l'autre jour, on avait Esther Benbassa et Rachid Benzine qui sont venus débattre, justement, vraiment de façon très intéressante sur la question. On a évoqué, on travaille sur le féminisme et l'écoféminisme, qu'est-ce que ce sera, sur la santé et l'environnement, qu'est-ce que ce serait, comment aujourd'hui poser les bases d'une république qui intègre dans sa dimension non plus une distanciation entre le culturel et la nature, entre la culture et la nature, mais qui intègre dans son approche la question de la limite des ressources, du climat, et donc de la possibilité, en fait, de vivre en tant qu'être humain dans une république et sur une planète vivable. Voilà.
Merci beaucoup Claire, c'était très intéressant. Mathilde, de quoi voulais-tu nous parler ?
Alors déjà, je voulais juste, je suis super contente qu'Ariane t'ait choisi ce livre parce que j'écoute Jean-Pierre Unbaum depuis qu'il fait sa promo et j'ai très envie de le lire. Moi, j'ai choisi de vous parler du Cid Action parce que c'est ce week-end. Et en fait, avec le Covid, les dépistages sont en chute libre. Et la population des jeunes était déjà plus touchée. L'épidémie est en recrudescence chez les jeunes. Et donc, en fait, c'est un sujet qui est super pressant parce qu'on a fait des avancées considérables. Et là, le risque, c'est qu'on revienne en arrière, notamment à cause de la pandémie. Mais déjà avant, c'était reparti à la hausse. Et donc, dans ce cadre-là, je voulais parler d'une super série que j'avais vue sur... Elle est sur MyCanal, qui s'appelle It's a Sin. C'est une série anglaise. Elle est vraiment très, très bien faite. C'est des personnages très fins, très humains. Il n'y a aucune caricature. Et c'est vraiment... Enfin, je la recommande chaudement. Ça se passe dans les années 80. Et donc, on voit un petit peu l'arrivée de l'épidémie dans la communauté gay à Londres. Et un documentaire aussi sur France TV sur le virus. Ça s'appelle Virus de l'exclusion, sur comment vivent les séropositifs en France aujourd'hui. Donc voilà, c'était le thème que je voulais aborder, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup d'épidémie de Covid, mais pas de celle-ci.
Ouais, merci beaucoup Mathilde, effectivement c'était important, c'était un rappel très très important. Il ne faut pas oublier aussi les autres épidémies et les autres virus qui ravagent notre monde. Merci beaucoup à toutes les trois, j'espère que ça vous a plu, et merci beaucoup d'être intervenu sur ce 20e épisode de Popol.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.